Ça reprend, c'est le moment.
Bah, quel moment?
Celui de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio.
J'ouvre aujourd'hui la fenêtre sur le talent d'une jeune artiste qui a choisi d'entrelacer les couleurs et la musique. Je vous laisse imaginer un instant ces chansons qui vous font vibrer, pleurer, danser, se transformer en tableau. Imaginez que chaque note devienne une nuance, chaque mot un coup de pinceau. Ce sont de grandes toiles que vous pourrez découvrir, qui capturent une émotion, la sienne, mais qui fait, faites-moi confiance, écho aussi en vous. En nous. Je vous parle de Fanny, son nom d'artiste c'est Nibé, elle expose depuis vendredi à Montsûr à la Grande Expo Internationale 2024, une exposition répartie dans deux lieux, l'Hôtel de Ville et la Galerie d'Art. C'est en première partie d'émission que l'on échange avec donc cette artiste. Ensuite, on continue avec la culture qui nous est si chère et on va voir nos voisins du Carré à Château-Gontier. Ils nous parlent du spectacle Un début de quelque chose, une proposition inattendue, curieuse et jubilatoire. Maël Grenier, directeur du Carré, nous en parle en seconde partie d'émission aux côtés de Christine Houdard. Et puis l'émission se terminera avec la Ligue des droits de l'homme et notre chroniqueur Frédéric Benoît qui continue aujourd'hui son abécédaire. Bienvenue à vous, amis auditoristes dans l'agité du local, je suis Margot et je suis heureuse de commencer cette semaine avec vous. Votre émission quotidienne commence maintenant, c'est parti. L'agité du local sur l'autre radio. Donc je suis ravie de recevoir aujourd'hui une artiste au talent singulier, Nibé, dont l'univers mêle harmonie, musique et peinture. Alors à travers vos œuvres modernes et vibrantes, on peut le dire comme ça, vous transformez les notes en coups de pinceau et les paroles en motifs expressifs, offrant une véritable expérience sensorielle pour le spectateur. Vous avez un univers qui passe de Bachung jusqu'à Feuchaterton, jusqu'à Gainsbourg ou encore Izia. On pourra voir ensemble et échanger ensemble sur tous ces artistes qui vous inspirent. Je suis très contente de vous avoir avec nous puisque vous exposez depuis le 13 décembre et ce jusqu'au 25 janvier. Votre travail, il est présenté aux côtés de celui de d'autres artistes. Et comme je le disais en introduction de cette émission, cette exposition est présente à l'Hôtel de Ville ainsi qu'à la Galerie d'Art de Montsûr. Nibé, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Ben merci à vous de m'accueillir, bonjour.
J'ai pu en dire quelques mots, votre travail est à la fois visuel et sonore. Comment est-ce qu'on pourrait décrire votre univers?
C'est ça, c'est vraiment l'idée en fait. Étant passionnée de musique et faisant pas mal de peinture, j'ai essayé d'allier les deux. L'idée c'est de traduire graphiquement des sensations, c'est interpréter en fait une chanson, une musique, c'est essayer par exemple sur une musique qui est douce, je vais essayer de mettre des couleurs assez douces, pastel, à l'inverse sur une musique beaucoup plus rythmée, criarde, je vais essayer d'avoir des coups de pinceau plus marqués, enfin voilà, c'est traduire graphiquement.
Alors j'imagine que pour vous lancer justement dans une toile, dans une peinture, finalement c'est la musique qui vient forcément en premier.
C'est ça, en fait c'est plutôt à partir d'une chanson, j'essaye... c'est difficile en fait de résumer 3-4 minutes de musique en une image, donc j'essaie de synthétiser. Souvent, j'aime beaucoup travailler les portraits, donc souvent j'essaie de me baser sur un personnage. Après, il y a certaines chansons que j'adore, par exemple Bachung, j'aime beaucoup ces artistes, mais c'est vraiment pas évident à traduire. Il y a beaucoup d'images déjà, de métaphores dans ces chansons, donc en fait il faut que j'arrive à rester sur une métaphore qui me marque le plus. Mais c'est pas toujours évident, mais oui, je pars toujours d'une musique, effectivement.
C'est vrai qu'il y a énormément de visages finalement dans les tableaux, dans ce que vous représentez. Comment est-ce que ça se passe, la rencontre avec la chanson? Est-ce que vous cherchez un morceau pour l'illustrer ou est-ce que c'est une chanson qui finalement vous trotte dans la tête et met un peu de temps à mûrir avant de devenir un tableau?
Alors, souvent, c'est vraiment des musiques que j'adore, que j'écoute, que je choisis vraiment. Après, il y a vraiment, c'est toute la difficulté de nos chansons artistiques, c'est que parfois ça va se jouer en 3-4 minutes, je vais l'entendre et je vais avoir tout de suite une image et du coup c'est plus simple, tant mieux. Comme parfois, effectivement, je n'arrive pas à traduire vraiment ce que je ressens et ça peut être beaucoup plus long, donc je peux faire plusieurs croquis, plusieurs recherches, mais c'est assez aléatoire.
Vos fonds à l'acrylique sont marqués par des coulures un peu façon graffiti, ce qui est finalement un peu votre patte, on peut le dire. D'où vient cette technique et qu'est-ce qu'elle vous raconte?
Alors, pour le coup, c'est parce que j'ai toujours, depuis l'adolescence, en fait, adoré tout le travail d'artiste graphiste. J'aime beaucoup cet esprit-là, donc c'est vraiment plus, une signature, en fait. C'est ce que j'aime et je trouve que visuellement, ça donne un petit peu de rythme. Enfin, voilà, c'est vraiment très personnel, ça.
On parlait d'émotion tout à l'heure, de comment raconter l'émotion d'une musique, mais visuellement. Sur vos différents tableaux, on remarque des palettes de couleurs extrêmement différentes. Donc à la fois, il y a la technique, mais le choix des couleurs est important également pour vous, dans la manière de raconter.
C'est ça, complètement. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, sur des chansons douces, j'essaye d'être beaucoup plus sur des choses pastelles, un peu comme la mémoire, la chanson de Violet qui est assez douce, calme. Là, j'ai essayé de faire des choses un peu estompées. Sur d'autres plus rythmées, là, dernièrement, j'ai fait la chanson de MC Solar, Dingue, où j'ai mis des couleurs assez criables, parce que pour le coup, on est sur une chanson qui est très rythmée, très, voilà. Donc, j'essaie de traduire ça comme ça.
Quelle est la place de l'imprévu dans votre travail ? Est-ce que c'est quelque chose que vous visualisez et que vous représentez ensuite tel quel ? Ou parfois, en cours de travail, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, vous lui laissez la place ?
Alors, il y a toujours des esquisses, des travaux au préalable. Après, effectivement, il y a toujours une part d'imprévu, en fait, entre l'association des couleurs. C'est quand même bien travaillé en amont, mais voilà. Dans la création artistique, il y a toujours des choses des fois qui ressortent et qui peuvent se dire « Ah ouais, finalement, en testant ça, c'est pas mal aussi. »
Est-ce que cette technique, cette approche de la peinture et de la musique, vous l'avez déjà vue chez d'autres artistes ? Est-ce que d'autres artistes vous ont inspiré peut-être d'une autre manière ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu, que vous avez expérimenté vous-même ?
Alors, par rapport au fait de travailler la musique, non, je ne connais pas d'artiste qui fait ça. Par contre, graphiquement, ouais, j'aime beaucoup l'artiste City, qui fait des portraits très colorés aussi. En fait, il est issu du street art et j'adore ce qu'il fait, donc ouais, on peut dire qu'il m'inspire.
J'ai envie de me mettre à la place du spectateur face à vos toiles. L'idée est de se mettre donc face à la toile, face au tableau, et d'écouter la musique qui est en lien avec cette peinture pour faire communiquer les deux. En tout cas, est-ce qu'il y a peut-être une manière d'appréhender votre travail en particulier ?
Pour avoir fait plusieurs salons et être face justement au spectateur, je trouve super intéressant aussi le fait que la personne ne connaisse pas la chanson au préalable et découvre en premier lieu ma toile. Donc j'ai les ressentis et après du coup on met la musique et ce qui est sympa c'est de voir la concordance des deux, enfin, c'est assez chouette du coup ça.
Est-ce que via des retours de spectateurs justement vous avez le sentiment que certaines chansons nous évoquent à tous un peu les mêmes choses ou au contraire qu'il y a des perceptions parfois très différentes que vous n'imaginiez pas forcément vous-même ?
Pour le coup sur certaines de mes toiles ce qui était intéressant c'est que oui l'idée en fait... était assez vite captée de ce que je voulais traduire. Donc je pense que on a toutes des interprétations et des ressentis différents, mais voilà, on a quand même quelque chose de commun au final.
Alors je me pose la question, quand vous peignez, est-ce que vous êtes déjà en train de penser à ce spectateur qui va découvrir ce que vous êtes en train de travailler, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une bulle et dans votre propre émotion ?
C'est vrai que non, je pense pas trop ça. En fait, je commence seulement à montrer ce que je fais. Donc, je vous avoue qu'être confronté au spectateur, c'était pas vraiment l'idée à la base, même si c'est toujours agréable d'avoir un retour. Mais effectivement, là, maintenant, quand ma toile est finie, je me dis, bon, est-ce qu'on va comprendre ce que j'ai essayé de traduire ? Je sais pas. Après, de toute façon, l'art, c'est une interprétation. Enfin, chacun interprète ce qu'il veut. Donc, voilà, il faut laisser libre aussi cours à l'imagination.
Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière, une ambiance particulière avec le choix des toiles que vous avez choisi d'exposer à Montsûr ?
Non, c'est vraiment l'idée. En fait, c'est ce que j'aime aussi dans la musique, c'est que moi, ce que j'écoute, c'est assez éclectique. Donc, l'idée aussi, c'est de montrer des toiles assez éclectiques.
Est-ce qu'il y a une pièce phare, une création particulière que vous êtes impatiente de montrer ? Une pièce peut-être même que vous attendez, pour laquelle vous attendez particulièrement les réactions du public ?
J'ai fait une toile sur la chanson de Bowie, Space Oddity, donc là qui sera présentée. Moi, je l'aime beaucoup, donc j'attends de savoir si elle va plaire aussi.
Il y a une toile, moi, qui m'a particulièrement marquée, interpellée, c'est la bombe humaine. Alors, il y a effectivement plusieurs styles différents dans votre travail. J'ai pu souligner la couleur. Celle-ci, elle se démarque, elle a quelque chose de, je trouve, assez singulier. D'ailleurs, on pourrait la décrire peut-être pour l'auditeur de l'autre radio qui, au moment où on se parle, ne l'a pas sous les yeux.
Oui, alors en fait, là, j'ai joué sur le fait qu'on pouvait être des marionnettes. Donc, le personnage est fait à partir de fils. Et puis, on a le cœur qui est en forme de bombe. Donc, effectivement, ça sort un petit peu du style que je fais habituellement. J'ai tenté autre chose.
Comme je disais, celle-ci, elle se démarque au niveau de la technique, mais aussi au niveau de la couleur. La couleur, c'est un élément de votre langage artistique qui est vraiment important pour vous.
C'est vrai, c'est vrai. Là, le but aussi, c'était vraiment que ce soit le cœur qui ressorte. Le reste, c'est en noir et blanc. Donc, effectivement, ouais, c'était ça l'idée.
Qu'est-ce qu'on peut dire à l'auditeur? En tout cas, quels sont vous, vos espoirs pour le spectateur qui va se retrouver face à vos toiles? Qu'est-ce que vous espérez qu'il ressente? Quelle manière est-ce que vous voulez qu'il découvre votre travail?
Je trouve ça, en fait, je pense, plus sympa quand le spectateur ne connaît pas la chanson. Parce que, bon, déjà, c'est chouette, j'aime bien faire découvrir des chansons, donc il y a déjà ce côté-là. Mais j'aime bien avoir deux impressions, en fait. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir un premier ressenti, une première interprétation. Et puis, après, voir si, effectivement, le rapport avec la chanson se fait aussi.
Est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre manière de travailler ou cette technique vous accompagne depuis le début, Nibé?
Alors, en fait, avant de partir sur la musique, j'ai fait énormément de choses au préalable. J'ai fait pas mal de portraits. J'ai même eu une marque de vêtements. Je faisais de la personnalisation. Enfin, voilà, j'ai exploré pas mal de choses. Après, pour la musique, je pense que j'ai à peu près toujours la même démarche. C'est-à-dire que j'essaie vraiment d'écouter. Parfois, je peux l'écouter en boucle pendant un quart d'heure, essayer de me poser, de me dire quels sont les rythmes, quelle est l'ambiance. Enfin, voilà. Donc, musicalement, je pense que j'ai toujours un peu la même démarche.
Est-ce qu'il y a déjà une prochaine toile? Donc, peut-être que vous avez à l'esprit une chanson, justement, qui vous tourne dans la tête et que vous n'allez pas tarder à mettre en peinture?
Oui, toujours 15 000 idées, c'est un peu le problème, c'est trop le temps. Je vais sûrement faire une chanson de The Cure, Euphorest, là, qu'on entend pas mal en ce moment, qui du coup, à force de l'entendre, j'ai une petite idée qui va pondre. Relais aussi, voilà, pour l'instant j'ai quelques idées et j'espère les faire bientôt.
Exposer, c'est aussi venir à la rencontre de son public, c'est parler de son travail. Est-ce que c'est un moment que vous appréciez particulièrement?
Oui, alors ça, c'est un peu un exercice difficile pour moi, parce que je suis quand même assez introvertie. Donc je commence seulement à montrer mes toiles, donc je me confronte un petit peu à ça. En fait, c'est super agréable, les retours sont adorables, donc c'est chouette. Maintenant, voilà, il faut que je m'y fasse, il faut que j'apprenne à le faire.
Justement, je me dis souvent dans un travail artistique, cette étape de montrer au public, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément peut-être évident, d'avoir les premiers retours entre ce que nous on veut y mettre et ce qui est reçu, comment c'est perçu. Parfois, il peut y avoir peut-être des différences pas faciles à aborder.
Oui, complètement. Surtout la peinture où on est vraiment dans un... Enfin, voilà, moi, quand je fais ça, je suis dans ma bulle en fait, l'avantage de maintenant, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Donc déjà, on le montre une première fois via ce biais-là. Après, c'est quand même mieux la vraie vie, on monte une discussion et voilà. Donc, mais oui, non, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est chouette, en fait, au final. On apprend aussi, on partage avec d'autres artistes pendant des salons comme ça. C'est chouette d'avoir l'expérience de tout le monde, donc... C'est sympa.
Et donc, Nibé, je le rappelle, votre travail est déjà visible donc à Montsûr, à la Grande Expo Internationale 2024. Il y a deux endroits pour cette exposition dans lesquels on peut retrouver différents artistes. Il y a donc l'Hôtel de Ville et puis la Galerie d'Art. En tout cas, merci beaucoup, Nibé, de nous avoir dit quelques mots sur votre travail. C'était un plaisir.
Merci à vous pour votre accueil.
Justement, avant de continuer ensemble cette émission, je vous propose qu'on imagine des couleurs sur Euphorest que l'on vient d'évoquer ensemble. On écoute The Cure.
Thank you.
l'agité du local sur l'autre radio. Chaque lundi, l'auditeur de l'autre radio l'attend, c'est la revue de presse du Haut-Anjou et aujourd'hui, le dossier à la une revient bien sûr sur les coupes budgétaires de la région. Votre hebdomadaire nous emmène dans le Maine-et-Loire et en Mayenne à la rencontre des premiers concernés. On commence avec l'association Les Fonds de Terroir, comme d'autres, elle anticipe déjà des alternatives. Après la baisse des subventions du département l'année dernière, celle de la région désormais supprimée, l'association annonce des répercussions sur les personnes embauchées et craint l'impact sur ces festivals Ferme-en-Seine et Ombre et Lumière. Comme un grand nombre de structures, le mécénat et les dons font partie des alternatives aujourd'hui envisagées pour survivre à cette décision des Pays de la Loire et notamment de Christelle Morançais. Bernard Clément, comédien, metteur en scène et président fondateur de la compagnie de l'Ourson Blanc, à ce gré déplore qu'une fois encore la culture soit vue comme le parent pauvre et que la richesse de l'esprit semble moins essentielle que la richesse en termes d'argent. Le dossier de la semaine s'arrête aussi sur les aides aux petites cités de caractère en baisse et se penche sur la parole des élus. L'inquiétude est grande également du côté des festivals et de la place des artistes, notamment en Mayenne, qui, comme l'indique Sébastien Rousselet du duo Rouquine dans les colonnes du Haut-Anjou, la crainte est que nous allions du côté d'une uniformisation de la programmation. Un choix brutal qui touche bien évidemment la culture, mais pas seulement, puisque la mission locale, via Régis André, son directeur départemental, indique que cette coupe représente 700 jeunes que la mission locale ne pourra plus accompagner. Alors pour ne rien manquer, pour aller plus loin, pour ne rien manquer de l'ensemble des actualités dans le Haut-Anjou, je vous rappelle que votre hebdomadaire paraît chaque vendredi en kiosque et est disponible également en version numérique sur le hautanjou.fr. En cette fin d'année, il y a bien évidemment la surprise des fêtes de fin d'année et ce qui brille réellement par contre tout au long de l'année dans nos yeux, c'est la culture, je viens de vous le dire, et tout ce qu'elle peut nous apporter d'étonnement. Justement, on écoute Maëlle Grenier, directeur du Carré à Château-Gontier, et Christine Houdard nous parler d'une date qui arrive cette semaine au Théâtre des Ursulines. Écoutez.
Le mardi 17 décembre, nous accueillerons un début de quelque chose, dernière création de la compagnie L'Unanime. Une compagnie que nous avions déjà accueillie sur un spectacle qui s'appelait Un spectacle. Dans le titre, on voit déjà la philosophie de la compagnie. C'est une compagnie qui est constituée d'artistes qui viennent aussi des beaux-arts, donc des arts visuels, et qui travaillent le spectacle vivant, qui sont aussi musiciens, et qui étaient avec nous notamment sur la partie musicale de la dernière présentation de saison. Un début de quelque chose, c'est en fait l'histoire des histoires. C'est-à-dire qu'eux, ils se posent les questions qui peuvent paraître conceptuelles, mais qui sont drôlement intelligentes et vraiment brillamment intelligentes, de quel est le pouvoir des histoires qu'on vous raconte, puisqu'on passe notre temps à vous proposer des histoires, et les artistes passent leur temps à proposer des histoires aux gens. Et qu'est-ce qui pourrait advenir s'il n'y a pas d'histoire, s'il ne se passe rien? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand, une fois qu'on a convoqué tout le monde et qu'en fait, il n'y a rien? Rien à dire, rien à faire, rien à montrer. Donc, ils partent à l'envers avec beaucoup de loufoquerie, de drôlerie. C'est jubilatoire, c'est fin, c'est intelligent. Intellectuellement, je veux dire, ça nous fait des bulles dans la tête. Et c'est vraiment très drôle de déconstruire comme ça les codes de la représentation. Et ils le font avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'inventivité. C'est un pur moment, c'est un spectacle d'humour en fait. C'est un spectacle d'humour. C'est le panthéon de l'absurdité, mais c'est une réussite à partager. Parce que ça, les gens n'imaginent pas à quel point on peut faire du drôle avec du rien. Quoi. Et puis du rien qui est drôlement, pour le coup, intelligent. Et scénographiquement, il y a des choses, il y a des petites pépites.
C'est effectivement des moments d'absurdité très, très drôles. Et en même temps, je trouve qu'en tant que spectateur, on se fait prendre au jeu. Parce qu'en fait, c'est une succession de débuts de quelque chose. Et en fait, tout de suite, on est pris, on attend la suite, on attend justement, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est un enchaînement de rien, mais en même temps qui nous touche vachement. Et ils sont très, très forts et ouais, c'est vraiment un moment étonnant. Et il y a aussi tout un univers plastique, puisqu'ils ont, ils ont travaillé sur un décor textile avec des espèces de formes. En fait, ça ne représente rien et en même temps, ça peut représenter tout, justement. Et donc, il y a aussi le côté très... jeu d'enfant, en fait. On se met autour et on ferait comme si, et on jouerait, et là, ce serait ma cuisine, et là, ce serait mon jardin. Et en fait, ça tourne beaucoup autour de ça, sur cette simplicité de... Voilà, on est ensemble, qu'est-ce qu'à quoi on joue? Qu'est-ce qu'on va se raconter? Et ça marche vraiment très, très bien.
Vous écoutez à l'agité du local sur l'autre radio. Et alors, dans quelques instants, on retrouve Frédéric Benoît et la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Mais avant ça, je vous propose une pause musicale. J'avais envie de partager avec vous Hippocampe Fou, Pas le temps.
Pas le temps. Pas le temps de se dépayser. Pas le temps de se stabiliser. Pas le temps de préparer des repas équilibrés. Et pas le temps de dédramatiser. Pas le temps de jouer, pas le temps de répéter. Pas le temps d'échouer, pas le temps de progresser. Pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de soupirer. Pas le temps de bronzer, pas le temps de roupiller. Pas le temps de prendre un bain, pas le temps de se laver les dents. Pas le temps de se garer vraiment bien. Pas le temps d'attendre, pas le temps d'apprendre. Pas le temps d'écouter des morceaux jusqu'à la fin. Pas le temps de fêter nos annives, pas le temps d'assister aux manifs. Pas le temps d'être indécis, pas le temps d'être précis, pas le temps de préparer le débrief. Pas le temps d'être un peu solidaire, pas le temps pour des préliminaires. Pas le temps de faire la paix, pas le temps d'aimer la terre, pas le temps de percer des mystères. Pas le temps de laisser mijoter nos rêves dans la grande ours. Pas le temps de vérifier nos sources, faut gagner la course. Pas le temps d'être poli, pas le temps d'être incompétent. Pas le temps de réfléchir au fait qu'on n'a pas le temps. Pas le temps de lire, pas le temps de rire, pas le temps de jouir, pas le temps de fuir, pas le temps de vivre.
Alors, on arrive maintenant au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Frédéric Benoît, de quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui? On continue l'abécédaire.
Bonjour Margot. Oui, on continue l'abécédaire. Aujourd'hui, bon, c'est pas dans l'ordre, mais aujourd'hui, je vais évoquer les contre-pouvoirs. Donc, la lettre C, C comme contre-pouvoir.
Alors, on vous écoute.
Alors, contre-pouvoir, je ne vais pas faire un cours sur les contre-pouvoirs dans la démocratie, hein, parce que je vais évoquer la démocratie, notre démocratie en France. Et bon, tout le monde sait qu'il y a une séparation des pouvoirs démocratiques, à savoir que le législatif, l'exécutif, le pouvoir judiciaire sont exercés par des instances différentes. Bon, ça on le sait. Je ne vais pas non plus parler des contre-pouvoirs institués, comme la plus célèbre en ce moment, c'est le Conseil constitutionnel, hein, qui peut censurer une loi. Ce matin, je veux évoquer les contre-pouvoirs qui ne sont pas les contre-pouvoirs du pouvoir, parce qu'en fait, les chambres, le Conseil constitutionnel, c'est le pouvoir qui se donne lui-même des contre-pouvoirs. Non, ce que je veux évoquer, c'est notre démocratie, la vitalité démocratique de notre pays, et d'évoquer des contre-pouvoirs qui sont plus liés à la démocratie sociale qu'à la démocratie politique.
Mais alors, de quel contre-pouvoir parlez-vous exactement?
Alors, je vais évoquer ce qu'on appelle la société civile. Bon, la société civile, on en entend parler. Qu'est-ce que c'est au juste? La société civile, ce sont les femmes, les hommes qui travaillent, les jeunes qui étudient. C'est vous, c'est moi. Hein, nous sommes la société civile. Mmh. Et des femmes et des hommes, des jeunes, se regroupent dans des collectifs. Et je vais citer les trois les plus connus, hein, qui font partie de notre vie démocratique et qui sont reconnus par notre Constitution. À savoir les syndicats, les associations et les organisations non gouvernementales, les ONG. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ces collectifs apportent à la démocratie, à la vitalité démocratique? Alors, les syndicats, pour commencer. Bon, les syndicats, ils interviennent au cœur de notre système économique. On a un système économique qui repose sur la circulation des richesses. Et il y a des tensions entre ce qu'on appelle le capital et le travail. Donc, les syndicats sont là pour essayer de réguler ces tensions entre capital et travail. Bon, il n'y a pas un méchant et un gentil. Hein. Il y a une réalité économique, la nôtre, et il faut réguler ces tensions. Donc, le syndicat intervient dans ces tensions-là et il permet, sans qu'on s'en rende compte, hein, il permet d'éviter des ultra-violences. Hein. Les syndicats permettent des négociations, permettent des plans, des aménagements. Et puis de sauver des entreprises. Parfois, ça ne marche pas. Des fois, ça marche. Et puis, elle permet, essentiellement, par rapport à la démocratie, elle permet de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. Hein, je pense aux salariés en particulier. Bon, grâce aux syndicats, ces salariés, ces travailleurs, ceux qui sont dans leurs entreprises, dans leurs usines, on les entend pas. Et leurs revendications, s'il n'y avait pas les syndicats, elles ne remonteraient pas jusqu'à nous. Donc voilà, le rôle des syndicats est primordial par rapport au monde du travail. Le deuxième collectif, qui est très riche en France, hein, c'est le tissu associatif. Alors qu'est-ce que ça apporte? Qu'apportent les associations en termes de démocratie? Bon, ben, c'est quand même les associations qui nous permettent d'être au fait de causes particulières, qui nous permettent d'entendre des choses qu'on ne soupçonne pas et d'apporter des solutions. C'est quand même les associations qui arrivent à nous parler de ceux qui sont marginalisés parce qu'elles ont l'expertise. Hein, je cite sur la Mayenne l'exemple d'ATD Carmonde, 53, qui nous alerte régulièrement sur les gens en situation de précarité. Et puis, invective les pouvoirs publics sur le fait que les gens dans la précarité sont toujours en train de devoir se justifier alors que ils ont des droits, bon, je pense au RSA, je pense à la CAF, ils ont des droits qui sont nommés, mais il faut qu'ils se justifient pour obtenir ces droits. Bon, ça c'est insupportable, ils sont en précarité, ils n'ont pas choisi d'être dans la précarité. Les associations de parents d'enfants handicapés, alors ils ont eu une action déterminante sur l'accès au lieu, hein, l'accès physique, donc je pense à l'APF, l'Association des paralysés de France. Ils ont permis une avancée en termes d'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées, mais je pense aussi à l'accès à l'éducation. Donc elles permettent de faire bouger les lignes sur des choses qui n'avancent pas ou qu'on ne voit pas. Il y a les organisations non gouvernementales. Je veux parler plus précisément, enfin, je veux parler plutôt de ce qui concerne la défense de l'environnement. Bon, le rôle des associations qui s'occupent de la défense de l'environnement, et c'est rappelé là aussi dans notre Constitution, hein, c'est de permettre, et dans des textes internationaux en plus, hein, c'est de permettre que l'information et la participation des citoyens fassent partie des alertes et deviennent un appui aux décisions qui vont être prises. Donc ça, c'est marqué dans la Constitution. Mais en plus, c'est vieux, hein, ça date des accords de Rio. Je ne me rappelle plus la date précise, mais ça doit être 1993, bon, quelque chose comme ça. Excusez-moi sur ce point.
Mais alors, est-ce que ce terme même de contre-pouvoir n'est pas susceptible de faire peur?
Alors, est-ce que ça fait peur aux citoyens, ça? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que c'est nous, en fait. Hein, la société civile, comme je l'ai dit, c'est nous. Contre-pouvoir, ce qui est sûr, c'est que des politiques, je ne vais pas dire les politiques, mais des politiques n'aiment pas ça, les contre-pouvoirs. Alors on entend comme ça des néologismes qui sont créés toujours par des hommes politiques. Alors on a entendu éco-terroristes, hein, les éco-terroristes. Bon, pour ce qui nous concerne, on entend le droit de l'homisme. Hein, alors mettre-misme, c'est des connotations péjoratives, quoi, qui tente à marginaliser les actions de ces collectifs, que ça soit associatif, syndical, comme je l'ai cité tout à l'heure. Bon, mais ça, c'est que des stratégies de communication. Hein. C'est simplement pour stigmatiser, c'est tout. Hein. Mais ce qui est inquiétant, c'est la dérive. La dérive par rapport, par rapport à ces propos, c'est la dérive autoritaire qu'on sent derrière. Nous, la Ligue des droits de l'homme, on a subi ça de plein fouet il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Suite à l'affaire des méga-bassines à Sainte-Soline, un ministre a publiquement, et puis relayé par le Premier ministre de l'époque, a publiquement remis en question la possibilité de subvention à l'association La Ligue des droits de l'homme, parce que la Ligue des droits de l'homme était présente le jour de la manifestation. Donc voilà, on s'est posé la question de la posture de la Ligue des droits de l'homme à cette époque-là, en remettant en question des subventions publiques. Heureusement, la vitalité démocratique en France a fait qu'en 6 mois, on a eu 3000 adhésions de plus. Donc les hommes politiques en question se sont arrêtés parce qu'ils ont vu qu'ils avaient plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire-là. Est-ce que ça fait peur? J'en sais rien, mais en tout cas, comme je le disais, les hommes politiques n'aiment pas ça. Ils voudraient se contenter que le pouvoir crée son propre contre-pouvoir et essayer de cadrer absolument toujours la société civile en créant des commissions, des grands débats, mais on n'en voit jamais le résultat, tout ça. Il y a des commissions, des grands débats, on crée des chambres en parallèle, mais bon, on fait croire aux citoyens qu'on les invite à ceci, à cela. Non, la réelle vitalité, c'est des organismes comme les syndicats, les associations, toutes ces organisations qui luttent pour l'environnement. Faut qu'on se méfie, enfin, il faut que les hommes politiques se méfient, parce que quand il n'y a plus de vitalité politique, on voit bien comment la démocratie commence à perdre un petit peu son profil. C'est les exemples de la Hongrie, la Hongrie d'Orban, la Turquie d'Erdogan, l'Inde de Modi. Bon, bah oui, c'est des démocraties, oui, il y a l'action de vote, il y a des chambres, il y a séparation des pouvoirs, mais enfin, personne aujourd'hui va dire que c'est une démocratie comme on l'entend. Chez nous, quoi. Voilà, merci Margot.
Merci beaucoup à Frédéric Benoît. Et donc, on peut rappeler que l'ensemble de l'ABCDR est disponible en podcast. L'ensemble, de toute façon, des chroniques de la Ligue des droits de l'homme est disponible en podcast sur notre site internet, l'autreradio.fr. Merci beaucoup, à très bientôt. Votre émission quotidienne de l'Agité du local s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Nibé d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir parlé de son travail. Merci encore à Frédéric Benoît. Alors ça continue sur les ondes de l'autre radio. Et alors à 19h, c'est une émission spéciale. Aujourd'hui, la FRAMA reçoit des élus, des acteurs du social, de la solidarité, de l'insertion, du vivre ensemble, des médias et des citoyens locaux, mais aussi des acteurs du monde de l'agriculture et de la qualité alimentaire. Cette émission nous parle évidemment des coupes budgétaires et de l'impact sur les services et les territoires dans leur diversité. Et comme je vous le disais, ça commence à 19h sur les ondes de l'autre radio. Ensuite, à 20h, c'est la discothèque de Morgane qui aujourd'hui nous propose de redécouvrir les titres diffusés dans les émissions sorcières. C'est la deuxième partie de cette discothèque que l'on découvre ce soir. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local et nous serons justement accompagnés de Régis André, directeur départemental de la mission locale en Mayenne. D'ici là, prenez soin de vos pensées, de tout ce qui vous passe par la tête, comme on arrose une plante, gardez une étincelle de curiosité et avec cette dernière, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, bah, c'était bien, hein.